sur France Inter. Je suis convaincue qu'il est possible de dépasser le capitalisme et la propriété privée et de mettre en place une société juste sur la base du socialisme participatif et du social-fédéralisme. Thomas Piketty est ce soir notre invité et comme chaque soir, on commence en musique et ça sera Leonard Cohen.
Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music, pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that we're married. One, two, three, one, two, three, one. Thanks for the dance and the baby you carry. It was almost a daughter or a son. And there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. We're joined in the spirit, joined at the hip, joined in the panic, wondering if we've come to some sort of agreement.
Thomas Piketty, comment avez-vous appris qu'une de vos grand-mères avait été domestique de ferme ?
Oh, bah c'est elle qui me l'a raconté. Elle avait 13 ans au début de la guerre Et donc, effectivement, bon, elle racontait ça avec ses mots à elle. Elle disait, mes parents m'ont vendu. Bon, c'était sans doute un peu exagéré. Disons que ses parents l'avaient placée dans une ferme. Et effectivement, les parents touchaient le salaire. Bon, c'est des mémoires qui sont marquantes parce que, voilà, après, elle grandit pendant la guerre. Donc, elle s'imagine qu'elle fait plein de choses en 43, 44, 45, quand elle a plutôt 17 ans, 18 ans. Bon, il y a surtout beaucoup de souffrance hein, dans tout ça, parce qu'elle ajoute à chaque fois, quand elle racontait ses souvenirs, elle disait aussi, oh, mais j'ai eu une bonne vie finalement, parce que voilà, j'ai eu de la chance, mes enfants ont été bien avec moi. Et donc elle rajoutait toujours, finalement, j'ai eu de la chance. Mais bon, il y avait derrière, il y avait quand même des expériences qui étaient lourdes, hein, qui sont celles voilà, d'une génération et de génération de femmes notamment, mais bon, il y a aussi des conditions de travail très difficiles chez les hommes, évidemment, mais les femmes, elles ont connu voilà, des formes d'inégalité, de domination qui sont particulières. Et moi, mes grand-mères, qui étaient toutes les deux très différentes, qui avaient des origines sociales très différentes, mon autre grand-mère était d'un milieu plus aisé, c'était un autre type d'expérience, mais il y a toujours, voilà, disons, oui, le patriarcat, il a une place qui vous est assignée, qui est qui est quelque chose de dur.
Vos parents étaient et sont peut-être encore aujourd'hui des militants syndicalistes. Est-ce que cette éducation syndicaliste a compté pour vous dans votre adolescence et dans l'éveil de votre vocation, Thomas Piketty?
Oui, c'est aussi la confrontation des différents milieux sociaux auxquels j'ai été exposé. C'est-à-dire que ma mère venait vraiment d'une famille très modeste. Sa propre mère avait été domestique de ferme. Après, elle a été agent de police. Elle s'est retrouvée seule avec cinq enfants. Bon, ça venait vraiment d'un milieu. Ma mère a dû commencer à travailler sitôt son brevet des collèges en poche à 15 ans, comme employée de banque, à trier des chèques à Nanterre, parce qu'elle aussi fallait ramener un salaire à 15 ans. Surtout, elle était la quatrième. Bon, il y avait son frère ensuite qui avait le droit de faire des études, mais pour elle, il fallait ramener un salaire. Puis après, elle est devenue beaucoup plus tard institutrice à 40 ans, 45 ans, et elle a passé toute la deuxième partie de sa carrière comme institutrice, après avoir fait des cours du soir. Bon, elle était syndicaliste CGT au Crédit Lyonnais quand elle était employée de banque. Et oui, toute cette expérience, ça m'a marqué. Mon père, lui, est issu d'un milieu beaucoup plus bourgeois, et c'est plus, ça fait partie de. Mais bon, a quitté l'école aussi très tôt, en première, parce qu'il manifestait, parce qu'il avait rencontré ma mère, parce que j'allais bientôt naître, là, tout ça. Mais j'ai vu aussi à travers lui, à travers ses parents, mes autres grands-parents, un autre type de trajectoire sociale, de milieu social, de persuasion politique. Hein. Les grands-parents du côté de mon père, pour le coup, avaient le Figaro à la maison, étaient très à droite. Bon, ce qui les empêchait pas d'être très sympathiques, évidemment, mais simplement, c'est des types de persuasion, d'itinéraire, de valeurs, de vision du monde très, très différentes. Disons que de voir tout ça de très près, ça m'a forcément, on est tous marqués par tout ce qu'on voit. Ça m'a donné aussi envie de mieux comprendre. Et j'essaye, dans mon dernier livre, Capital et idéologie, d'avoir une certaine empathie pour les différentes idéologies, pour les différents systèmes de croyances au sujet de la bonne façon d'organiser la société. Après, ce qui m'empêche pas de prendre position pour la suite, mais je pense que pour commencer, si on veut arriver à dépasser les choses qui nous semblent devoir être dépassées, il faut commencer par comprendre les points de vue qui sont toujours plus complexes que ce qu'une vision un peu manichéenne pourrait amener à penser. Et donc d'avoir vu, moi, autour de moi, ces différentes trajectoires, ces différentes persuasions, comme beaucoup de personnes, hein, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, mais ça m'a sans doute beaucoup marqué, en tout cas beaucoup, beaucoup appris.
Votre méthode, Thomas Piketty, est basée sur plusieurs éléments, mais il y a un élément auquel je suis très sensible, c'est la littérature. Dans le livre précédent, vous parliez de Jane Austen, de Honoré de Balzac. Dans celui-ci, vous parlez de Adichie, de Carlos Fuentes et d'autres. Il y a une question, avant qu'on parle des questions d'actualité, il y a une question qui est récurrente, aussi bien dans votre livre précédent que dans celui-ci, c'est pourquoi la reproduction des inégalités paraît-elle finalement naturelle? Vous dites dans ce nouvel ouvrage qu'en France en 1910, finalement, les disparités et les concentrations de richesses étaient aussi fortes que lors de l'Ancien Régime. Alors on se dit, est-ce que l'inégalité est naturelle ?
Alors, c'est souvent ce qu'essayent de faire croire les groupes dominants, disons les élites au sens large des différentes sociétés qui aiment à décrire les inégalités comme naturelles, quasi sacralisées et en tout cas impossibles à changer sans risquer de créer d'immenses malheurs. Alors qu'en fait, ce qu'on observe dans l'histoire, c'est quand même des gigantesques transformations, des sociétés qui autrefois étaient extrêmement inégalitaires, comme par exemple la société suédoise jusqu'au début du XXe siècle, qui va devenir très rapidement une des sociétés les plus égalitaires, en tout cas les moins inégalitaires de l'histoire. Dans le cas de la France, la Révolution française a changé beaucoup de choses, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a une égalité d'accès aux droits, au moins sur le plan formel en particulier. En principe, tout le monde doit pouvoir avoir accès aux droits de propriété, tout le monde doit payer les mêmes impôts indépendamment du fait qu'on appartienne à l'ancienne classe nobiliaire ou non. Mais en pratique, cette égalité formelle d'accès aux droits conduit en fait à une espèce de sacralisation de la propriété et d'immense concentration de la propriété tout au long du XXe siècle, tout au long du XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, en partie parce que, disons, c'est comme si on avait remplacé une religion par une autre, c'est-à-dire que la religion de la propriété devient telle qu'on refuse d'envisager, jusqu'au début du XXe siècle et jusqu'aux guerres mondiales, des redistributions importantes de la propriété. En particulier, on en refuse jusqu'en 1914, en France, d'envisager tout impôt progressif sur le revenu. Alors, il y a un impôt progressif sur les successions qui a commencé à se développer, qui a été adopté finalement en 1901, mais qui reste très limité jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et disons, l'argument général, c'est de dire, écoutez, si vous commencez à vouloir un peu redistribuer les propriétés, vous n'allez pas savoir où vous arrêtez et ça va devenir le chaos et le socle de la société s'en trouvera totalement amoindri. Et cette forme de sacralisation de la propriété au XIXe siècle, on la retrouve de façon extrême avec un épisode que je raconte dans mon livre, qui est celui de l'émancipation des esclaves en 1848. Et avant cela, quand Haïti était devenue indépendante pendant la Révolution française, eh bien, la France, enfin, les autorités françaises exigent que l'on compense financièrement les propriétaires d'esclaves pour leur perte de propriété. Et dans le cas d'Haïti, eh bien, Haïti va se retrouver à devoir rembourser jusqu'au milieu du XXe siècle à la France et à ses anciens créanciers le prix finalement de la liberté. Et les intellectuels français du XIXe siècle, les intellectuels dits libéraux comme Tocqueville par exemple, défendent absolument ce principe de compensation des propriétaires, donc aucune compensation pour les esclaves eux-mêmes, mais une compensation pour les propriétaires, au nom du fait que si on exproprie ses propriétaires sans compensation, alors on se mettra aussi à exproprier d'autres propriétaires, par exemple ceux qui détenaient des esclaves dans le passé et qui n'en détiennent plus, et de fil en aiguille, on finira par remettre en cause l'ensemble de l'ordre propriétariste. Et donc je trouve que ça exprime bien cette espèce de sacralisation de la propriété qu'on a finalement au XIXe siècle, qui commencera à être remise en cause à partir de la fin du XIXe siècle avec le développement des mouvements socialistes, syndicaux, mais qui sera, dans le développement sera vraiment accéléré par la Première Guerre mondiale, par la Révolution bolchévique, et là on aura un effondrement complet, notamment entre 1914 et 1945, de cette idéologie basée sur la sacralisation de la propriété. Mais ce qu'on observe de façon générale dans l'histoire, c'est que c'est vraiment par un mélange de mouvements intellectuels et de mobilisation politique et idéologique de long terme, et aussi par des logiques événementielles de plus court terme, que se produit le changement historique et la transformation de ce type de régime inégalitaire.
Mais cet idéal d'égalité, vous faites remarquer dans votre dernier ouvrage, Thomas Piketty, cet idéal d'égalité hérité de la Révolution française peut nous aveugler, y compris aujourd'hui, et ne pas vouloir nous rendre compte des inégalités. Vous faites remarquer, l'exemple m'a absolument ahuri, vous faites remarquer que l'État aujourd'hui, l'État français, met 3 fois plus d'argent public sur les grandes écoles que sur les étudiants des universités au nom de l'idéal d'égalité.
Oui, d'ailleurs, alors on utilise le mot, on dit oui, c'est la méritocratie républicaine. Donc on ajoute le mot républicaine, sans doute pour vouloir dire qu'on n'est plus dans l'Ancien Régime et que c'est pas réservé à une caste issue d'une classe privilégiée aristocratique. Mais vous voyez que ça revient quand même à pas mettre la barre très très haut, quoi. C'est-à-dire que s'il suffit que le mode de sélection ne soit pas celui d'une classe aristocratique pour se permettre de justifier ce type d'inégalité, on a quand même une espèce d'instrumentalisation de la Révolution française, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose est républicain, toutes les inégalités deviennent acceptables. Et c'est quelque chose qu'on voit malheureusement tout au long de l'histoire de France, et d'ailleurs dans d'autres pays, parfois une instrumentalisation de la mémoire nationale et parfois dans tout ce qu'elle a de positif, mais qu'on utilise à tort et à travers pour justifier de très fortes inégalités. Par exemple, la France est en fait le dernier pays en Europe, et même si on inclut les États-Unis, le Japon, a adopté l'impôt progressif sur le revenu pendant l'été 1914, et c'est pas pour financer les investissements dans les écoles, c'est pour financer la guerre contre l'Allemagne. C'est la seule chose qui débloque la situation au Sénat et qui fait que la loi du 15 juillet 1914 créant l'impôt sur le revenu est finalement adoptée, alors que tous les autres pays, la Prusse, le Japon, la Suède, le Danemark, mais aussi le Royaume-Uni, même les États-Unis viennent d'adopter un impôt fédéral sur le revenu en 1913, alors qu'il fallait modifier la Constitution. C'est très compliqué, ça faisait 20 ans qu'ils étaient mobilisés là-dessus. Finalement, c'est créé, mais en temps de paix, en 1913, sans la pression du financement d'une guerre. La France arrive bon dernier en 1914, en grande partie parce que les élites républicaines, enfin une partie en tout cas importante des élites de la Troisième République, expliquent que la France, en fait, est déjà un pays égalitaire par la grâce de la Révolution française, et donc n'a pas besoin d'un impôt progressif, spoliateur, inquisitorial sur le revenu, que de tels impôts sont tout à fait indispensables pour des pays inégalitaires, aristocratiques comme le Royaume-Uni, mais que la France, étant déjà percée d'égalité, n'a absolument pas besoin de tout ça. Sauf que ce que montrent mes archives successorales que nous avons exploitées, c'est qu'on a un niveau de concentration de la propriété en France et à Paris en particulier en 1913-1914, qui est aussi extrême que dans les autres sociétés européennes de l'époque. Et donc ce type d'hypocrisie, disons, c'est facile de le voir avec un siècle de distance, et moi l'étude de cette période m'a beaucoup marqué, mais il faut aussi le voir quand il s'agit aujourd'hui de cette instrumentalisation, disons, au sein d'une idéologie que j'appelle dans le livre hyper méritocratique, c'est-à-dire où on prétend justifier des inégalités extrêmes avec, en l'occurrence, comme vous le rappeliez, des investissements publics qui vont être trois fois plus élevés pour des élèves qui certes ont le mérite d'être reçus en classe préparatoire, mais qui quand même en pratique sont souvent issus de milieux sociaux beaucoup plus favorisés que ceux qui se retrouvent dans des filières plus courtes ou dans les filières techniques ou dans les filières à l'université. Il y a quand même là une hypocrisie assez flagrante. Il ne s'agit pas forcément de diminuer ce qui est investi dans les classes préparatoires, parce que je pense que c'est l'enseignement supérieur dans son ensemble dans lequel il faudrait investir bien davantage. C'est-à-dire qu'il y a une stagnation globalement de l'investissement éducatif depuis les années 80-90 en France et d'ailleurs dans les sociétés européennes et également aux États-Unis, en dépit d'une très forte progression du pourcentage d'une classe d'âge allant vers l'enseignement supérieur, ce qui veut dire que l'investissement par étudiant a beaucoup diminué. La France, au cours des 10 dernières années, est un cas particulièrement clair, puisque le nombre d'étudiants a énormément progressé, pratiquement d'un million d'étudiants. Enfin, on est passé de 2,2 millions d'étudiants à presque 2,8, 2,9 millions d'étudiants. Donc, une très forte progression sur 10 ans, ce qui en soi est une bonne chose, montre aussi un appétit de connaissances, de savoir, des personnes qui ont fait des investissements importants pour réussir le baccalauréat, à qui on a promis des perspectives. Et là, il y a un gâchis lié, par exemple, au fait qu'on a une énorme progression du nombre de bacheliers technologiques, mais sans augmenter le nombre de places en IUT et BTS, et avec des places qui sont souvent prises par les bacheliers généraux, et donc on a des bacheliers technologiques qui vont se retrouver dans des filières universitaires générales qui n'ont pas du tout été conçues pour leur formation initiale. Et là, il y a un gâchis et un sentiment d'injustice qui est quelque chose de vraiment moche. Donc, disons, toute cette entrée dans l'âge de l'enseignement supérieur depuis les années 80-90 aurait nécessité une nouvelle réflexion sur la notion de justice éducative et la notion de justice dans la répartition des moyens éducatifs. Et je pense que c'est une des grandes, disons, des grandes limitations des partis sociaux-démocrates au sens large qui ont réussi pendant les Trente Glorieuses à développer des systèmes dans les différents pays européens de sécurité sociale, de promotion par l'école primaire et secondaire, par le droit du travail, à promouvoir des sociétés plus égalitaires que toutes celles qu'on avait connues jusqu'ici. Mais une de leurs grandes limitations depuis les années 80-90, avec les difficultés pour organiser mieux la mondialisation, l'Europe, il y a eu surtout cette difficulté de redéfinir un objectif d'égalité éducative, de justice éducative, et on a laissé se développer, notamment au sein de l'enseignement supérieur, une stratification considérable et finalement l'impression pour beaucoup de personnes de s'être fait avoir. Disons qu'on l'avait beaucoup promis et puis finalement, à la sortie, c'est toujours les mêmes qui gagnent.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, Charlotte Gainsbourg. Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix de la lecture de Thomas Piketty, interprété par Nora Krief, c'est Leonora Miano, impératrice rouge, extrait.
Debout, à quelques mètres de la place Montatizi, l'homme n'avait Dieu que pour la femme. Celle qui se tenait au centre, tel un soleil couchant ayant déposé son rougeoiement sous la verrière. La veille, lors d'une de ces sorties officieuses dont il ne pouvait se passer, la marche du Mokonzi l'avait mené à cette place. Il y en avait un peu partout à travers Mbanza, en dehors de certains quartiers résidentiels. Leur concepteur avait observé les habitudes populaires dans cette partie du continent, une propension à délaisser les espaces prévus aux fins de réunion ou de flânerie. Dans les métropoles d'autrefois, seuls quelques fantaisistes prenaient plaisir à arpenter les nzela nets des parcs et jardins publics. Les autres plus nombreux s'attroupaient de préférence sur le côté, le long des murs, au bord des trottoirs. Cette façon de regarder les choses depuis la marge, de rendre cette dernière centrale en s'y regroupant, n'avait pas changé avec les décennies. Aussi, l'urbaniste avait-il eu l'idée de végétaliser des pans de murs, de fixer au-dessus des verrières de forme convexe. Partant de pluie, une trentaine de personnes pouvaient s'abriter dessous. Quand il faisait beau, les places accueillaient toutes sortes de rassemblements. On y venait aussi en passant pour le plaisir de voir les autres, d'être en leur compagnie. Lunga aimait à se tenir au bord de ces lieux, sur les branches basses de l'un des grands arbres bordant la chaussée. L'homme pouvait ainsi entendre parler les gens, ne pas attendre les rapports de la sécurité intérieure ou des Mikalaï sur l'état de l'opinion. Il en profitait aussi pour se rendre compte par lui-même de la qualité des relations sociales, observant en particulier le comportement des agents de l'administration. L'avènement du Catiopa unifié était récent. Il importait que la population n'ait à formuler que des reproches mineurs. Pour cela, les fonctionnaires, quel que soit leur grade et attribution, devaient faire preuve de souplesse, de patience. Il s'agissait d'accompagner la mise en place de nouvelles règles. Plus que des codes à respecter dorénavant, elles participaient d'une vision de soi plus saine. Comme tous les membres de l'Alliance qui avaient pris le pouvoir 4 années plus tôt, Lunga était déterminé à réussir là où la fédération précédant le Catiopa unifié avait échoué. Elle avait en partie aboli les frontières héritées de l'ère coloniale, ce qui était depuis l'époque de la toute première Chimuranga l'une des aspirations les mieux partagées par les combattants pour la souveraineté du continent. La fédération avait cependant failli, n'ayant pas assez travaillé à obtenir l'adhésion des masses à cette partie cruciale du projet de libération. Au fil des décennies, les habitants du continent avaient assimilé un ordre des choses bénéficiant à d'autres. Beaucoup avaient foi en la nation telle qu'elle leur avait été imposée et s'accrochaient à cette conception belliciste de l'appartenance à un territoire. Les temps ancestraux avaient été balayés, ne laissant dans le sillage de leur disparition que des identités fissurées. Les fédéralistes avaient caressé le rêve de la restauration, se heurtant à une aporie. Ils avaient cru remonter les siècles, vivre l'histoire à rebours. Leur aveuglement, la violence de leurs méthodes avaient fait naître ça et là des frondes d'envergure variable. Tous s'accordaient sur les problèmes, s'affrontant quant à la manière de les résoudre. La fédération avait ajouté du chaos au chaos, ne se donnant d'autre option que celle d'un totalitarisme qui précipiterait sa chute. De son côté, l'Alliance s'était constituée avec patience. Ses théoriciens faisant le choix d'inscrire dans l'appellation du mouvement la volonté qu'il convenait de mettre en œuvre. Une vision tenant compte de propager l'idée d'un lien organique, charnel, entre les peuples de Catiopa. Qu'il y ait eu là une vérité ou qu'il se soit agi d'un fantasme n'était pas la question. Il fallait au contraire assumer les différences, les inviter, pour des raisons objectives, à se joindre les unes aux autres sous une même bannière, forger une conscience nouvelle. La première Chimuranga avait eu lieu bien avant la venue au monde de Lunga, dans des temps troubles pour le monde. L'humanité, à la fois affolée par les conséquences de ses actes et infatuée d'elle-même, se croyait l'origine d'un nouveau temps géologique. Elle en était terrifiée, elle s'en félicitait. L'humanité, enfin, ceux qui s'étaient arrogé le droit de parler et d'agir en son nom. Cette période s'était néanmoins révélée féconde pour le continent, dont la conscience désapprenait, après la haine de soi, la vaine exaltation de soi, autant que la crainte d'être soi.
Ces batailles du début avaient été celles de l'imaginaire, une reconquête du champ des possibles par la pensée. On avait alors du recul sur les modèles encore en vigueur. On distinguait les empilements de déchets sous les dorures, les coulées de sang dans les avancées technologiques, la vénalité homicide et suicidaire des maîtres d'un monde à la dérive. On ouvrait les yeux sur ces bizarres modalités du progrès dont la prospérité exigeait le sacrifice de l'être à l'avoir. Le caprice individuel érigé en principe, l'institutionnalisation des déviances, la destruction de la nature. Le Chimuranga dite conceptuel avait constitué l'incontournable étape sans laquelle aucune autre n'aurait pu être réalisée.
Alors pourquoi ce choix de Leonora Miano, Rouge Impératrice, Thomas Piketty?
Oh, c'est un roman que j'ai lu là au tout début du confinement, qui, disons, c'est un peu, il y a une histoire de fin du monde et en même temps une histoire de régénération à la fois démocratique et fédérale, qui est important pour moi. C'est-à-dire que Leonora Miano imagine en gros l'Afrique à la fin du XXIe siècle, donc beaucoup d'imagination, imagine que le continent africain, presque complètement unifié à part quelques parties en Afrique du Nord, a créé une fédération démocratique qui lui permet finalement de reprendre sa souveraineté. Et toute l'histoire, c'est qu'il y a des réfugiés européens. Donc l'action se déroule vers 2110 ou 2120, mais au passage, le roman nous raconte beaucoup des effondrements qui se sont produits entre aujourd'hui et dans un siècle. Et donc des réfugiés européens se retrouvent en Afrique et donc le monde en général a fait face à des catastrophes climatiques. Alors la démondialisation, ça a commencé depuis bien longtemps. Les liens commerciaux avec la Chine, l'Amérique du Nord, tout ça a été sérieusement distendu. Et l'Afrique, les dirigeants africains se posent la question de est-ce qu'il faut tendre la main ou non à ces réfugiés venus d'Europe. Et donc voilà, il y a une inversion complète des perspectives. Mais il y a cette dimension fédérale, vers cette espèce de rêve de sortir quoi, des petits États-nations étriqués, laissés par la colonisation, et d'avoir une construction démocratique à l'échelle du continent africain, que seul un romancier finalement peut avoir l'audace de mettre en scène de cette façon. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé.
Alors ça rejoint vos préoccupations. D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, des auteurs ont rarement fait œuvre d'autocritique à l'intérieur de la rédaction de leurs ouvrages. Mais oui, vous, oui, dans Capital et Idéologie, dès le début de votre ouvrage, vous faites une autocritique. Vous dites que dans vos ouvrages précédents, vous avez été trop occidentalo-centré. Et dans cet ouvrage, d'ailleurs, vous déployez des arguments qui embrassent, grâce à cette équipe multidisciplinaire avec laquelle vous travaillez, qui embrasse des continents comme justement l'Inde, mais aussi l'Afrique. Alors on l'a vu durant toute cette période que nous venons de vivre et qui n'est pas terminée, Thomas Piketty, cette mondialisation de la pandémie vous inspire quelle réflexion sur le plan philosophique et politique ?
Cette pandémie, elle illustre d'abord la violence des inégalités sociales qui traversent le monde d'aujourd'hui. Elle illustre le besoin de changer le système économique. Donc la violence des inégalités, bah, c'est d'abord la violence face au confinement, la violence face au logement, quoi, entre des personnes qui sont sans logement, sans abri, dans la rue. Et là, pendant des semaines à Paris, quand on faisait un petit tour dehors, on voyait bien ce besoin de solidarité, de personnes qui demandaient de l'aide, qui étaient complètement laissées de côté, les personnes qui ont des tout petits logements qui étaient entassés, et puis d'autres personnes qui étaient confinées dans des conditions complètement différentes. Et ça se produit à l'intérieur des pays riches. Mais alors si vous débordez du cadre des pays occidentaux et que vous allez du côté de l'Inde, du côté de l'Afrique, on voit bien que toute la question du confinement, par certains côtés, c'était peut-être pas complètement inadapté, mais en tout cas très insuffisant. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une politique sociale, un accès aux soins, et puis des systèmes de revenus de base, de transfert de revenus permettant aux personnes de continuer de pouvoir vivre pendant l'arrêt des activités économiques. La conséquence, c'est qu'on a surtout vu en Inde, et ça a été très bien raconté par Arundhati Roy. Et pour revenir à Leonora Miano et à l'Afrique, il y a beaucoup de réflexions actuellement en Afrique de l'Ouest. Vous savez, on en parle très peu en France et en Europe, mais il y a une union monétaire en Afrique de l'Ouest. Donc la question aujourd'hui est de savoir est-ce qu'on la transforme en une union politique, sociale, avec des impôts en commun, des investissements en infrastructures en commun. Et cette union monétaire ouest-africaine qui a des origines coloniales terribles quelque part, puisque l'origine du franc CFA, c'était la Banque du Sénégal qui en 1848 avait été créée justement pour gérer les compensations financières aux propriétaires d'esclaves qui venaient de perdre leurs esclaves. Donc on peut imaginer mieux comme création pour une banque, mais justement la force après de l'histoire et des nouvelles générations qui arrivent après tous ces drames, c'est de redéfinir les choses, de leur donner une nouvelle orientation. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de débats très intéressants en Afrique de l'Ouest sur comment redéfinir l'union des États d'Afrique de l'Ouest pour donner à cette union monétaire une dimension sociale. Et alors on n'est pas encore à ce que décrit Leonora Miano dans son roman, mais je pense qu'il y a ce que nous montre l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de trajectoires possibles, il y a beaucoup de d'imagination dans les sociétés humaines pour réinventer des trajectoires différentes. Et l'idée qu'il n'y aurait qu'une seule façon d'organiser l'économie et qu'une seule trajectoire possible, c'est tout simplement pas conforme du tout à cette grande diversité de trajectoires possibles qu'on observe dans l'histoire et qui, à la suite de cette crise terrible, pourrait de nouveau s'illustrer.
Alors certains en France rêvent du grand soir ou des lendemains qui chantent. Je remarque que dans votre manière de parler, Thomas Piketty, vous avez dit revenu de base et pas revenu universel. Pensez-vous qu'on soit à l'aube d'une redistribution économique, d'une pensée nouvelle sur le service public? Et pensez-vous que nous sommes aujourd'hui à l'aube d'une relance européenne avec le couple franco-allemand, puisqu'on a appris pas plus tard qu'hier soir que Merkel et Macron proposaient un fonds de relance de 500 milliards d'euros. Ça va dans votre sens d'ailleurs, dans le sens de ce que vous prenez à la fin de votre ouvrage « Capital et idéologie ».
Oui, alors, sauf que 500 milliards d'euros, comme ça paraît beaucoup, mais si on ramène ça à une année de produit intérieur brut, de PIB, comme on dit, de l'Union européenne, qui est de 14 000 milliards d'euros, c'est en fait moins de 4% du PIB. Donc, par rapport à ce qu'il faudrait faire et par rapport au fait qu'il va falloir, si on veut sortir de cette situation extrêmement fragile pour la zone euro, où on met en compétition les pays face aux autres et où on a les 19 taux d'intérêt sur la dette publique qui sont soumis à l'intérêt, aux spéculations des marchés, si on voulait unifier le taux d'intérêt sur l'ensemble de cette dette publique, vous voyez, c'est pas 4% du PIB, c'est 50%, 100%. Ceci dit, si ça permettait d'avancer dans cette direction, pourquoi pas? Ce qui manque quand même, la plus grande insuffisance dans ce qui a été évoqué là, c'est tout l'aspect démocratique et l'aspect comment on va faire pour prendre des décisions ensemble. C'est-à-dire, la question, c'est comment on sort de la règle de l'unanimité. Comme vous le savez, l'un des gros problèmes de l'Union européenne, c'est qu'en matière notamment budgétaire et fiscale, il faut l'unanimité. Et là, les propositions qui ont été faites par la France et l'Allemagne ne changent rien à ça. C'est-à-dire que la France et l'Allemagne vont essayer de soumettre ça à leurs 27 partenaires, mais il faut que ce soit une décision à l'unanimité qui prenne cette décision. Et il y a toutes les chances que pour obtenir l'unanimité, il faille revoir au rabais ce qui a été annoncé là, ce qui est pourtant déjà insuffisant. Donc, comment on fait pour sortir de ça? Je pense qu'il faut proposer à tous ceux qui le souhaitent, de rejoindre un système beaucoup plus démocratique dans lequel un plan de relance de cette nature devra être voté à la règle de la majorité par une assemblée parlementaire ouverte à tous les pays qui souhaitent y participer, mais ceux qui ne souhaitent pas participer à ce plan de relance ne peuvent pas bloquer, alors que dans la situation actuelle, ils peuvent bloquer. Et ce que je propose là, c'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, d'une certaine façon, ça a été un peu fait avec l'Assemblée parlementaire franco-allemande qui a été créée l'an dernier, qui regroupe 50 députés de l'Assemblée nationale, 50 députés du Bundestag allemand, issus de tous les groupes politiques. On en a très peu parlé en France, c'est bien dommage, parce que potentiellement, si cette Assemblée était ouverte non seulement à la France et à l'Allemagne, mais à l'Italie, à l'Espagne, aux pays qui souhaitent avancer dès maintenant, et surtout si on lui confiait de réels pouvoirs, parce que pour l'instant, c'est une assemblée purement consultative, mais on pourrait très bien décidé de lui confier le pouvoir démocratique à l'issue d'une délibération au grand jour, et non pas dans les huis clos des conseils de chefs d'État où on en est tous à essayer de deviner les arguments échangés, mais où il n'y a aucune délibération.
Oh ben là, ils vont peut-être plus faire autant de sommets, ça va peut-être changer. Le fait qu'il n'y ait pas de diplomatie, entre guillemets, où les corps se rencontrent et où les sommets sont interminables, va peut-être changer effectivement l'accélération des décisions.
On va voir, mais là, pour l'instant, il n'y a aucune proposition de cette nature. Moi, je pense, le problème, c'est que les chefs d'État et les ministres des Finances, ils n'ont pas envie de perdre la main. Et dans le système beaucoup plus démocratique que je décris d'assemblée parlementaire, le pouvoir, il serait au sein de cette assemblée. Donc, il serait beaucoup plus collectif. Il y aurait toute cette pluralité des points de vue. Il y aurait la possibilité de prendre une décision à la majorité. Parce que vous voyez, quand vous avez une seule personne pour représenter 80 millions d'Allemands ou 65 millions de Français, c'est très difficile de prendre une décision à la majorité. Parce que vous pouvez pas mettre en minorité tout un pays d'un coup. Alors que quand vous avez 50 députés allemands, 50 députés français qui représentent toute la pluralité des opinions, parce que tous les Allemands pensent pas pareil, tous les Français pensent pas pareil, évidemment, alors on peut commencer à développer la possibilité de prise de décision à la majorité. Et ça, tant qu'on en restera à cette confrontation des chefs d'État, des ministres des Finances, on aura des coups franco-allemands pour essayer de montrer qu'on va avancer. Mais en fait, fondamentalement, on ne sortira pas de cette espèce de blocage perpétuel qu'est l'Union européenne.
Donc, resserrement de l'Europe, en fait.
À mon avis, beaucoup de pays rejoindront très vite le projet que je décris, qui d'une certaine façon avec l'assemblée franco-allemande développée l'an dernier est un peu un premier esquisse de ce à quoi ça pourrait ressembler. Il faudrait que ce soit ouvert à tous les pays, et je pense que la plupart des pays rejoindraient. Après, peut-être que le Luxembourg, les Pays-Bas, disons les pays qui ont le plus misé sur une stratégie de type paradis fiscal, vont avoir plus d'hésitation. Mais à un moment, je pense qu'ils comprendront qu'ils ne peuvent pas rester en dehors éternellement. Mais pour commencer, il faut avancer avec ceux qui le souhaitent. Parce que si on attend l'unanimité, on sait déjà depuis très longtemps qu'elle ne viendra pas.
Cela n'empêche pas la France d'imaginer des solutions pour elle-même. Vous faites remarquer dans votre ouvrage, Thomas Piketty, que l'Allemagne et le Japon, après la Seconde Guerre mondiale, ont été obligés d'inventer des systèmes économiques pour redémarrer. Que reste-t-il à la France d'imaginer aujourd'hui ?
Ce qui est intéressant quand on regarde les expériences historiques, c'est qu'on se rend compte qu'il y a toujours beaucoup de façons différentes de régler les problèmes, y compris par exemple les problèmes de dette publique. Et on a vu par exemple l'Allemagne et le Japon, vous y faisiez référence, qui ont développé après la Seconde Guerre mondiale des prélèvements exceptionnels sur les plus hauts patrimoines privés, notamment les plus hauts patrimoines financiers qui ont payé jusqu'à 80-90% de prélèvements.
C'est une bonne idée, non, pour aujourd'hui?
En tout cas, disons, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque, ça a plutôt bien marché. C'est-à-dire que par rapport à l'autre solution pour se débarrasser d'une dette publique, qui était l'inflation, qui avait fait beaucoup de dégâts en Allemagne, notamment dans les années 20, cette solution qui a été adoptée en 1948-1952 était beaucoup plus juste, parce qu'elle permettait de protéger les plus petits patrimoines et de demander davantage aux plus élevés. Après, c'était compliqué à l'époque aussi. C'était des luttes politiques considérables et ces différents choix ne sont jamais simples. Mais en tout cas, il existe dans l'histoire tout un répertoire de choix possibles, de trajectoires possibles. Et aujourd'hui, on peut aussi plus miser sur la Banque Centrale Européenne qui n'existait pas à l'époque. Donc, il faut réinventer des solutions adaptées à notre époque. Mais oui, il y a beaucoup, beaucoup à apprendre de ces trajectoires du passé pour mieux régler ces problèmes du présent.
Vous faites remarquer aussi que c'est depuis la chute du mur de Berlin et depuis la fin de l'Union soviétique, l'idée d'autorégulation des marchés a commencé à devenir la doxa pour l'économie. Est-ce que vous pensez, Thomas Piketty, qu'on va quitter peut-être à la fin, je l'espère, de cette pandémie, l'idée de cette autorégulation des marchés ?
Je pense qu'on la quitte progressivement. La crise financière de 2008 a déjà créé des sérieux doutes sur la capacité des marchés à s'autoréguler. Et je pense que cette pandémie peut aussi contribuer à relancer les réflexions sur comment on organise notre système économique, comment on organise les relations entre pays, comment on organise la mondialisation, comment on se retrouve à l'appeler comme si c'était quelque chose qu'on n'avait pas décidé, qu'on ne pouvait pas changer dans son mode d'organisation. Donc, on est en cours de transformation face à ça, mais on reste quand même très marqué encore par cet effondrement du communisme au début des années 90, qui serait défini notre époque, parce que ça a été une désillusion considérable par rapport à l'idée même de dépassement du capitalisme, du système économique. Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui, 30 ans plus tard, de reprendre la réflexion sur des formes de système économique. Moi, je parle de socialisme participatif pour insister sur l'aspect très décentralisé, c'est-à-dire où on s'appuie sur la participation des droits des salariés dans les entreprises, qui ont été beaucoup développés d'ailleurs également en Allemagne ou en Europe nordique après la Seconde Guerre mondiale, sur une circulation de la propriété, du pouvoir économique. Il faut voir qu'on est encore aujourd'hui, du point de vue du patrimoine, dans des sociétés incroyablement inégalitaire, où les 50% les plus pauvres en France aujourd'hui détiennent à peine 5% du total des patrimoines immobiliers, professionnels, financiers, alors que les 10% les plus riches détiennent plus de 60%. Et quand il s'agit de se confiner dans un logement, on voit ce que ça peut vouloir dire, ce type d'inégalité. Donc on a un besoin de redistribution de la propriété qui est quelque chose de réel. Et l'idée qu'on pourrait juste attendre que la croissance ou la compétition, les forces de marché changent cette réalité, bon, si c'était le cas, ça aurait changé depuis longtemps. Aux États-Unis, les 50% les plus pauvres, ils ont moins de 1% du patrimoine total, ils en avaient 3% il y a 30 ans, donc ça va pas vraiment dans la bonne direction. Et voilà, soit on pense qu'on peut vraiment pas faire mieux que ça, que c'est impossible d'imaginer une organisation économique permettant d'avoir plus d'accès au patrimoine et aussi à la participation à la vie économique, avec la possibilité de pouvoir aussi mieux négocier ce qu'on accepte ou pas. Parce que ceux qui possèdent des millions, parfois des dizaines, des centaines de millions, ne font peut-être pas très bien la différence entre posséder zéro ou posséder 100 000 ou 200 000 euros. Mais en fait, c'est très différent parce que ça vous donne la possibilité de ne pas accepter n'importe quoi, justement. On le voit actuellement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'accepter n'importe quelle condition de travail, n'importe quel salaire. Vous êtes en position de négocier les choses et de planifier votre propre vie, finalement, parce que tout ça, c'est beaucoup plus que de l'argent. C'est d'abord la question du pouvoir et le fait de pouvoir faire des choix et de ne pas devoir accepter tout et n'importe quoi tout de suite, parce que vous devez payer votre loyer, vous devez payer vos factures immédiatement. Donc c'est vraiment ça qui est en jeu.
Dernière question, Thomas Piketty. Comme dans votre ouvrage précédent, celui-ci est un vibrant hommage à l'éducation. Quelle que soit son origine géographique, quelle que soit sa classe sociale, quelle que soit la période, l'éducation est le fer de lance de l'égalité.
Oui, c'est le fer de lance de l'égalité et trop souvent, on a développé une forme d'hypocrisie face à la question de l'accès à l'éducation, où on prétend qu'on a ce principe cardinal d'égalité des chances, d'égalité d'accès à l'éducation, et puis une réalité qui est un système extrêmement stratifié. Et de ce point de vue-là, vraiment un livre que je recommande, que je connaissais depuis longtemps, mais que j'avais jamais lu sérieusement avant d'écrire ce nouvel ouvrage, c'est l'ouvrage de Michael Young, qui est publié en 1958, un livre qui s'appelle La montée de la méritocratie, qui lui-même est sociologue, mais c'est un livre d'anticipation, c'est un roman de science-fiction, il essaye de convaincre ses amis du Parti travailliste, parce qu'il a participé en 1945 à l'arrivée au pouvoir du Parti travailliste au Royaume-Uni, qui va mettre en place le système de santé qu'aujourd'hui tout le monde célèbre, même les conservateurs, le National Health Service. Mais à l'époque, je peux vous dire que les conservateurs, ils n'aimaient pas ça du tout. Enfin, en tout cas, Michael Young veut dire à ses amis travaillistes, c'est très bien la santé, mais ça suffit pas. Il va falloir aussi avoir un système d'éducation beaucoup plus égalitaire, et en particulier, il se méfie beaucoup, Michael Young, comme sociologue, du fait que le côté très stratifié du système éducatif britannique risque de poser des problèmes à mesure que le besoin de qualification et de monter dans le système d'éducation de couches de plus en plus larges de la population se développe. Et donc, il imagine dans son roman d'anticipation le fait que, À partir des années 70, 80, 90, donc il écrit en 1958, on va réserver l'accès aux filières éducatives élitistes à des groupes de plus en plus réduits. À un moment, les scientifiques vont même décider qu'en fait la moitié de la population est inemployable et à peu près inutile, et donc il faut la laisser végéter avec un revenu de compensation éventuellement, mais sans qu'on s'occupe trop d'elle. De cela va résulter une scission au sein du parti travailliste, où il va y avoir d'un côté le parti des techniciens, qui représente la frange la plus formée du parti travailliste, et de l'autre le parti populiste, qui va se séparer donc dans l'imagination de Michael Young. Et tout ça se termine vers 2020 avec des émeutes populistes qui mettent le pays à feu et à sang, et le sociologue qui raconte cette histoire finit égorgé dans ces émeutes, et c'est la fin de l'histoire. Alors, c'est publié en 1958, et je trouve que c'est très intéressant parce que il imagine, dans le demi-siècle qui va suivre, un mouvement vers une espèce d'idéologie hyper méritocratique et finalement une absence, une perte de l'ambition d'égalité éducative. Bon, c'est pas exactement comme ça que les choses se sont produites, mais il y a beaucoup de choses dans ce récit d'anticipation qui peuvent être relues aujourd'hui avec profit pour essayer de revenir à un programme qu'il appelait de ses voeux, qui est un programme d'égalité face à l'éducation.
Ben merci beaucoup Thomas Piketty, romancier du réel. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage. C'est Capital et idéologie. Merci à Rémi Sestiaga qui était à la technique ce soir. Merci à Maëlan Loanec. Merci à Anne-Sophie Dazard, à Élodie Royer, à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux et à Lilian Allôme qui a réalisé comme chaque soir cette émission. Après le prochain journal d'information qui vous sera présenté par Alexis Demeyer, vous avez rendez-vous avec l'ami Mishka Assayas pour son Very Good Trip. On va se quitter avec Malek Judy.
Me sentir autrement, comme quand j'avais 20 ans. Le séduire, t'envahir et attendre. De janvier à décembre, le séduire. Me sentir